Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Un tango en tandem avec Monsieur Hir aujourd'hui dans Plan large avec Patrice Lecomte et Ntebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. En France, on n'aime jamais tant ceux qui nous font rire que quand ils nous dévoilent leur part sombre et nous entraînent dans l'abîme de leur secrète détresse. On a beau être un réalisateur de comédies à succès, dont certaines sont devenues cultes et ont façonné la façon même de parler de plusieurs générations de spectateurs et de téléspectateurs, on n'est jamais tant pris au sérieux que quand, par des chemins de traverse, on fait face à ces démons pour tirer de ses doutes, voire de ses angoisses, matière à des films personnels, troublants et dérangeants. C'est ce qui est arrivé à la fin des années 80 à Patrice Lecomte, sans doute le plus versatile et inclassable des réalisateurs français, qui, après les immenses succès populaires que furent Les Bronzés et autres spécialistes, gagna alors auprès de la critique et de la profession ses galons de cinéaste et d'auteur, avec des films singuliers, pour ne pas dire radicaux, qu'unissent des figures attachantes d'hommes pathétiques et solitaires, qui cachent mal leur désarroi et leur virilité chancelante derrière de superbes fanfaronnades ou une raideur glacée, et plus généralement le thème de la solitude centrale chez lui. La réédition en Blu-ray et en DVD des versions restaurées de trois de ceux-ci, Tandem, Monsieur Hir et Tango, deux succès et un échec, nés sans doute d'un malentendu, nous permettent de recevoir leur auteur aujourd'hui dans Plan large pour revenir sur leur fabrication et sur ce qui s'est joué pour lui à ce moment-là. Patrice Lecomte, toujours très actif, nous parlera aussi de ses deux dernières parutions, une bande dessinée, Deux passantes dans la nuit et un livre pour enfants, Faites la tête, et nous dévoilera peut-être aussi quelques-uns de ses projets, dont un qui fait grand bruit depuis une semaine. Nous parlerons comme toujours de quelques sorties et ressorties sur écrans grands et petits, dont celle de Drunk de Thomas Vinterberg, avec là encore des hommes fragiles, faillibles et perdus. Le cinéaste danois de passage à Paris nous en dira quelques mots, et enfin fin d'émission, Ntebin nous parlera de la réédition en salle de Manhunter, le troisième film de Michael Mann et première apparition à l'écran d'un fameux psychiatre cannibale. Mais dans l'immédiat, c'est l'heure de votre jeu radiophonique préféré de la mi-journée, en direct de Marais.
Qu'est-ce qui cogne là ? Ça va pas, non ? Vous savez combien ça vaut un micro comme ça ?
Bonjour.
Bon, rapprochez-vous, on va pas vous entendre.
Bon, alors vous allez répéter les applaudissements.
Eh bien,
quand je lève les bras en l'air, vous applaudissez. Quand je les baisse, vous faites silence. Ok ? Alors nous essayons. Attention !
Oh non, doucement, c'est ça que vous appelez applaudir. Je vous entends 10 fois plus fort. Allez-y !
Vous avez l'antenne dans 1 minute 30.
Ok, mais vous à Paris ?
Bon, pas terrible, et vous ?
Si, c'est un peu dégueu.
Apprends ton mal en patience, dans 2 mois, t'es en studio, peinard.
Quoi ?
Mais t'es pas au courant ? J'ai vu la nouvelle grille, l'émission de Mortel saute, mon gars.
Non, arrête, tu déconnes ?
Oh, mais j'en ai l'air, ça fait une semaine qu'on le sait.
C'est pas possible d'y avoir une erreur. T'es sûr qu'ils ont pas simplement décalé l'horaire ? Non, allô, Philippe, tu m'entends ? Non, non, vérifie s'ils ont pas changé l'horaire. Et tu sais par quoi ça serait remplacé ? Allô ? Allô ?
Antenne dans 30 secondes. Top, à vous.
Merci Jérôme Larue pour ce hit des clubs. C'est maintenant l'heure de notre rendez-vous quotidien avec Michel Mortaise qui se trouve aujourd'hui à Marais pour son jeu La langue au chat.
Marésienne, Marésien, est-ce que tout va bien ? Eh bien, nous nous trouvons aujourd'hui à Marais, dans l'arrondissement de Frignac, où nous serons d'ailleurs la semaine prochaine.
Alors,
Marais, ici, s'enorgueillit à juste titre d'un superbe château du XIIe siècle, hélas, très touché par les bombardements de juin 44, Marais, cité fleurie et souriante, dont les industries de confection et d'appareils ménagers sont connues dans la France entière.
Le
me refais jamais ça.
Patrice Lecomte, bonjour.
Bonjour.
Comme on disait dans le jeu des 1000 francs, Jean Rochefort en Michel Mortaise, animateur de jeux radiophoniques, qui n'est pas donc sans rappeler un certain Lucien Jeunesse. Gérard Jugnot en Rifto, son fidèle ingénieur du son, slash réalisateur, slash homme à tout faire. C'est une sorte de Sganarelle et de Sancho Panza à lui tout seul. C'est bien sûr Tandem. On est en 1987. C'est le film, je l'ai dit en introduction, qui a le premier contribué à complexifier un rien l'image qu'on pouvait se faire de vous dans le milieu du cinéma et de la critique. Et c'est un film, je crois, que vous portiez depuis longtemps quand vous l'avez réalisé.
C'est exact. Je me souviens que c'était en 1981. Et si je me souviens de la date, c'est parce que c'est la date à laquelle, c'est l'année pendant laquelle est sorti Viens chez moi, j'habite chez une copine. Et j'étais là, chez moi, en train d'attendre le coup de fil qui allait me dire on a fait tant d'entrées dans telle salle. Enfin, ce qu'on connaît tous. Donc c'était un mercredi. Enfin, ce qu'on connaît tous, ce que je connais bien. Et j'étais en train d'écrire la première version de Tandem, qui à l'époque s'appelait Chers amis, bonjour, comme par hasard. Donc ça, c'était un petit peu trop stabiloté Lucien Jeunesse. Donc on a changé le titre. Donc j'ai écrit la première version, oui, en 1981. Et on a tourné le film en 87 ou 86, je sais plus, enfin, dans ces eaux-là. Donc il s'est passé du temps. J'ai mis le scénario dans un tiroir.
Pourquoi il s'est passé ce temps-là, justement ?
Mais parce que je voulais faire un film. Cette histoire me trottait en tête depuis longtemps. Je savais pas si, avec tous les guillemets du monde, si j'avais le droit de faire un film pareil. Je me disais, tiens, je vais peut-être faire ça pour la télévision, c'est moins risqué, c'est plus confidentiel, enfin encore que. Tout compte fait, les choses, pas l'envie, mais les choses en termes de production sont effilochées, ça s'est pas fait. Et quand j'ai eu la chance de faire ce film d'action, d'aventure avec Lanvin Giraudeau, qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours Les Spécialistes, le film a été un succès assez formidable, quoi. Et je me suis dit, bah, après un tel succès, je peux me payer le luxe ou le culot de faire Tandem. Et c'est comme ça que les choses se sont emmanchées, que ça s'est réactivé.
Mais est-ce qu'un tel succès, justement, ça permet vraiment de le faire? Parce que j'imagine que quand on fait Les Spécialistes, on vous attend plutôt sur Les Spécialistes 2,
oui.
Et pas sûr. Sur un film aussi étonnant que Tandem.
En effet, c'est-à-dire qu'après Les Spécialistes, donc bon succès, j'ai été, non pas assailli, mais on m'a fait des propositions de « Ah bon, alors vous faites plus que des comédies, alors on va faire des films d'action avec vous, monsieur Lecomte. » Donc on va faire, non pas Les Spécialistes font du ski, bien sûr que non, mais enfin, d'autres films de ce tonneau-là, de cet acabit-là. Et puis moi je disais, oui, peut-être, on va voir, mais je voulais pas rentrer dans un nouveau processus après les comédies, les films d'action, puis après des westerns, que sais-je. Et je me disais, laissez-moi faire Tandem. Mais en effet, quand il était question de monter Tandem, de trouver l'argent, même si c'était un film très bon marché, la production a eu un mal de chien à trouver le financement, parce qu'on disait, mais non, mais pourquoi est-ce qu'il va faire un film pareil, ce type-là? Non, faut pas qu'il fasse ça, faut qu'il continue à faire des comédies ou des films d'action, mais pas Tandem. Donc on a eu beaucoup, beaucoup de mal et c'était drôle parce que c'était Philippe Carcassonne qui était journaliste et qui devenait producteur et qui me disait, j'aimerais bien que mon premier film en tant que producteur soit un film de toi, Patrice, on se connaissait bien, etc. Il connaissait le projet de Tandem. Et quand je le voyais ne pas arriver à trouver le financement de Tandem, c'est moi, le monde à l'envers, qui lui disais « Laisse tomber, Philippe, on y arrive, t'y arriveras pas, fais autre chose ». Et il a tenu bon et je ne le remercierai jamais assez.
C'est un film qui est important pour vous, pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est le premier film, je crois, où vous êtes cadreur, hein, et c'est le début du film est comme une manière de l'affirmer, c'est-à-dire qu'on a ce très long plan qui va filmer une route, deux routes en fait, puisqu'on va se rendre compte qu'il y a une route parallèle et que nos héros sont dans une voiture sur cette route parallèle, ils sont déjà un peu en marge du monde. Pourquoi est-ce que vous avez voulu cadrer à ce moment-là et qu'est-ce qui s'est joué pour vous?
C'était cette envie de cadrer, donc d'inscrire les images qui me trottaient en tête, de pas déléguer, de pas les communiquer à un cadreur, même si les cadreurs que j'ai pu avoir étaient des gens formidables. Je voulais pouvoir maîtriser vraiment ça. C'est pas pour être omniprésent et prendre tout en charge, mais d'inscrire les images dans un cadre, en l'occurrence le scope, un cadre assez rectangulaire, c'est quelque chose qui me convenait et qui me titillait depuis longtemps. Mais je n'osais pas. Je suis pas forcément un type timide, mais enfin bon, parfois il faut que je me pousse un
Vous
peu au cul.
Vous êtes un garçon bien élevé, en
oui,
tout cas.
Oui, oui, enfin, il faut parfois que je me pousse au cul, pardon pour l'expression, pour faire les choses. Et quand Tandem a été possible et qu'on allait faire, je dis, bah, sur ce film-là, je vais cadrer. Parce que c'était un film d'un petit budget, on était une petite équipe, je me disais, bon, là, je peux faire, quoi. Et je me suis régalé parce que j'étais tellement impatient de faire ça aussi, que ça m'a plu et que j'ai plus jamais lâché la caméra. Enfin, j'ai plus jamais lâché cette fonction de cadrer moi-même mes films.
Ntebin, naissance d'un cinéaste, Tandem.
Bah oui, et ce que je trouve intéressant dans ce que Patrice Lecomte vient de dire aussi, c'est l'importance qu'on ne dit pas assez, enfin parce qu'elle n'est pas connue, du Tandem cinéaste-producteur. C'est-à-dire, Patrice Lecomte avait eu une collaboration avec Christian Fechner dans les grosses productions notamment, et puis là tout d'un coup ce jeune critique, alors moi je m'identifie un peu du coup, va aller voir trois cinéastes qu'il admire et qui sont et dont il va être responsable du renouveau. Il va y avoir Lecomte, Essotet et Téchiné. Et voilà, qui sont des gens qu'il a interviewés dans Cinématographe, la revue pour laquelle il écrivait. Et puis, il va donner une impulsion nouvelle à ces réalisateurs qui en ont peut-être besoin à ce moment-là. Et c'est vrai que, en plus, le fait de prendre en charge le cadre, c'est une affirmation aussi de l'auteurisme, entre guillemets, du réalisateur. Et ce qui me frappe en revoyant le film, c'est à quel point on est dans le point de vue des personnages tout le temps et sans cesse de l'un à l'autre, et avec une qualité extraordinaire non seulement de jeu de la part de Gérard Jugnot et de Jean Rochefort, mais une qualité d'écoute.
Et de regard aussi, parce que oui, le film, après le premier plan que j'ai décrit, que commence par une séquence assez longue et très silencieuse dans la voiture, et c'est un jeu de regard entre les deux personnages.
Oui, ils se regardent. À propos de ce premier plan, ce long travelling latéral qui arrive jusqu'à la route, avec la voiture de Mortez et Riveteau qui vient vers nous, ce long travelling, au départ, je l'avais imaginé, j'avais conçu comme étant le fond de générique, que ce serait sur ce plan. Et puis, quand j'ai vu le plan, c'était pas tellement pour me dire, oh, c'est un très beau plan, non, on va pas le saloper avec des lettres, c'est pas ça, regardez ce que je sais faire, non, mais je trouvais que ce long plan dépourvu de lettres de générique, le générique étant avant en lettres blanches sur fond noir, ce long plan était comme une espèce de sas, émotionnel peut-être, entre ce que j'avais pu faire avant et ce que je m'apprêtais à faire là. C'était comme pour mettre les spectateurs en alerte pour qu'ils soient en attente de quelque chose. Alors que pour moi, quand je vois un film, pour moi, tant que le générique n'est pas terminé, le film n'est pas commencé. Et moi, je voulais que le film commence avec ce long plan qui arrivait sur la route.
Et c'est la création d'un tandem, non seulement réalisateur ou producteur, mais d'un tandem très productif entre un cinéaste et un comédien, avec Jean Rochefort. Vous ferez 7 films, je crois, au total, avec lui. Vos débuts avec lui, 10 ans avant, dans les WC étaient fermés de l'intérieur, ça s'était plutôt mal passé.
C'est affreux, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar.
Qu'est-ce qui vous passionnait tant chez Jean Rochefort? Parce qu'il y a une folie incroyable.
Ben voilà, vous venez de dire le mot, c'est que Jean, il a, et Jean-Pierre Marielle aussi, ils ont cette espèce de folie en eux, et c'est des grands fêlés, quoi. Et c'est un compliment, évidemment. Et je me souviendrai toujours, quand j'avais fait plus tard ce film qui s'appelle Les Grands Ducs, avec Noiret, Rochefort et Marielle, chacun d'entre eux, même quand ils n'étaient pas dans le plan, ils restaient à côté de moi, à côté de la caméra, pour voir jouer leurs copains. Et je me souviendrai toujours, ça m'avait ému beaucoup. Il y avait une scène très hirsute avec jouée par Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle, et Philippe Noiret était à côté de moi, j'étais à la caméra, bon bien sûr, et Philippe regardait ses deux copains. Et après les 2 ou 3 prises qu'on a pu faire, il m'a dit, voyez Patrice, Jean et Jean-Pierre, ils ont quelque chose de formidable que j'aurais jamais. J'ai dit, ah bon Philippe, quoi? La folie. Alors, je l'ai rassuré, j'ai dit, mais non, Philippe, vous êtes aussi fou que... Mais je comprenais très bien ce qu'il voulait dire. Parce qu'il était plus... C'était un acteur plus reconnu, bourgeois, installé, TNP, mariage... enfin... Il souffrait, il était... Il enviait, il admirait ses deux copains parce que eux étaient des grands, grands fêlés.
Vous n'avez pas à avoir peur, mademoiselle. Je ne suis pas un voyou. Je suis monsieur Hir.
Je pensais pas que ça pouvait être habité.
Je n'allume jamais l'électricité, c'est pour ça.
Je voudrais voir. Mais c'est terrible, on voit tout. Si vous n'aviez pas bougé derrière votre carreau l'autre fois, je vous aurais jamais aperçu. Ça aurait pu durer encore très longtemps. Vous avez abusé de moi.
Je ne fais que regarder, c'est tout.
Vous m'avez fait peur ce soir-là. J'ai cru que vous me vouliez du mal. Mais pourquoi vous faites ça? Vous avez l'air si digne, si élégant. On n'a pas le droit de regarder chez les gens comme ça. J'aurais pu vous dénoncer. J'aurais pu, vous savez.
Vous auriez pu, mais vous ne l'avez pas fait.
Non.
Pourquoi avez-vous peur de moi? Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai été malheureux, mademoiselle.
Je vous ai menti. C'est pas vrai que je vous ai détesté. Au contraire. C'est agréable d'être regardé. Je prends du plaisir. Mais c'est parce que c'est vous. Quelqu'un d'autre, je pourrais pas. Vous, c'est pas pareil. On voit que vous êtes gentil.
Comment pouvez-vous dire ça? Vous ne me connaissez pas.
Michel Blanc et Sandrine Bonner, c'est bien sûr Monsieur Hir en 1989, et on précise à nos auditeurs que pendant que passait l'extrait, Patrice Lecomte redisait l'intégralité dialogues.
J'ai écouté l'extrait en karaoké, en fait, un peu. Non, mais parce que c'est une scène que j'aime beaucoup, et cette scène, ils sont tous les deux à la fenêtre, et chez Monsieur Hir, ils regardent chez Sandrine, enfin chez Alice, la fille d'en face. Et cette scène qui avait été jouée d'une manière absolument formidable, une sensibilité incroyable avec des raretés de jeu et tout ça. Le lendemain, on était à l'époque sur pellicule, on n'était pas en numérique. Et le lendemain, j'apprends, le laboratoire nous passe un coup de fil en me disant que la scène entière a été, le négatif a été rayé au laboratoire. Il y a eu un pépin de laboratoire. Enfin bon, ça arrive évidemment, et donc la scène était inutilisable. Et je me souviendrai toujours d'avoir dit à Sandrine et à Michel la mauvaise nouvelle en disant la scène qu'on a faite hier, vous m'avez tellement ému, on va être obligé de la refaire parce que, et je m'en souviendrai toujours de Sandrine avec son rire inimitable, tellement merveilleux et lumineux, qui m'a dit, mais c'est pas grave, on va te la refaire, Patrice. Et ils l'ont refaite, peut-être même mieux encore, alors qu'ils avaient déjà tout donné, quoi. Ils auraient pu, quelqu'un de ronchon aurait pu me dire, oh bon, non, crotte, je peux pas. Et là, en l'occurrence, les grands acteurs, c'est ça.
On n'a pas le droit de regarder chez les gens comme ça. C'est presque aux spectateurs de cinéma qu'elle s'adresse cette réplique, parce que Ntebine, on l'a entendu dans cet extrait, Monsieur Hir, c'est avant tout une question de regard. Hein. C'est l'histoire d'un regardeur d'ailleurs, plus que d'un voyeur.
Oui, c'est fenêtre sur cour en fait. C'est voilà, il regarde et d'ailleurs il ne fait rien d'autre que regarder. Il peut pas. On a l'impression, comme nous dans notre salle de cinéma, on peut pas, et on regarde d'ailleurs Sandrine Bonner, mais on regarde aussi Monsieur Hir, qui était une sorte de miroir de nous. Et il y a une chose intéressante à revoir les trois films. Parce que ça n'arrive quasiment jamais, sauf pour une émission comme maintenant, de revoir comme ça trois films. Et on se rend compte qu'il y a un personnage, le personnage de la jeune fille, traverse ces trois films de manière très intéressante. Il y a la serveuse dans le lit avec Gérard Jugnot dans Tandem. Il va y avoir un développement de ça dans Monsieur Hir avec Sandrine Bonner, qui reprend quand même le rôle de l'avant Vivienne Romance dans le film Panique de Duvivier, mais totalement à l'inverse de ce qu'on pouvait imaginer. Et puis ça va être développé dans le personnage de Judith Godrèche dans Tango. Et ça, c'est, voilà, c'est un auteur, ça se définit aussi par ça, par non pas un ressassement, mais des petites graines qui peuvent éclore d'un film à l'autre.
Un auteur se définit par les jeunes filles qu'il met en scène.
Voilà.
Voilà, d'accord.
Le parfum d'Yvonne.
Exact.
Par sa manière de les filmer et de les cadrer. Alors, vous l'avez dit, Ntebine, Panique de Julien Duvivier, c'était la première adaptation des fiançailles de Monsieur Hir, le livre de Simenon. C'est moins Simenon que vous avez voulu adapter que Duvivier auquel vous avez voulu vous confronter.
Oui, parce que figurez-vous que Panique, le film de Duvivier, avec Michel Simon et Viviane Romance, en effet, Panique est un film que j'adorais. Je m'amusais à dire comme ça, en l'air, tiens, un jour, je ferai un remake de Panique. Et quand après Tandem avec le même Philippe Carcassonne, on s'est posé la question de tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de maintenant, il m'a dit, tu te souviens Panique que tu aimes tellement, ben, si tu veux on pourrait ne pas en faire un remake, mais on pourrait en faire une nouvelle adaptation. Et moi je suis tombé des nues parce que je n'avais pas bien lu le générique de Panique, et je ne savais pas que c'était adapté d'un Simenon. Donc j'ai lu le livre de Simenon, Les fiançailles de Monsieur Hir, j'ai trouvé ça formidable et j'ai vu assez vite la possibilité de faire non pas un remake de Panique mais une adaptation très différente, une nouvelle adaptation à ma manière de ce très beau roman.
Mais là où l'adaptation est différente, puisque vous avez mentionné Michel Simon, c'est dans ce que vous demandez à un autre Michel, Michel Blanc. Avec Gérard Jugnot, dans Tandem, vous lui aviez rasé la moustache, vous lui aviez mis une perruque et vous aviez fait de lui, c'était d'ailleurs, ça venait beaucoup de lui, un regardeur. Là, pour le coup, Michel Blanc, vous lui demandez une sorte d'impassibilité totale du visage, c'est une sorte d'effet coulé de chauffe vivant. J'imagine que pour lui, ça n'a pas été évident, mais ça a été un immense changement pour lui dans sa...
Oui, ça n'a pas été évident pour lui parce qu'il avait peur d'être ennuyeux parce que c'est un acteur très très expressif, très mobile, très très rapide. Et là, j'ai demandé exactement le contraire. Alors, est-ce que inconsciemment, c'est pas impossible, est-ce que inconsciemment, je ne m'amusais pas ou j'avais pas du plaisir à prendre mes amis du Splendide un à un pour leur faire faire quelque chose qui soit aux antipodes des bronzés? C'est possible. C'était pas délibéré. Mais quand j'ai eu l'envie, quand on a écrit avec Patrick De Wolf l'adaptation de Simenon, pour une fois, on a écrit un film en pensant aux personnages et non pas en pensant à des acteurs. Donc j'ai pas écrit en pensant à Sandrine Bonnaire ni à Michel Blanc. Et après, c'est posé la question de qu'est-ce qui pourrait nous jouer ça. Sandrine, c'est venu assez vite. L'envie de cette actrice formidable et Michel Blanc c'est venu assez vite aussi et ça m'a rassuré d'une certaine manière de lui confier ce rôle parce que lui ça lui faisait peur, moi le film flanquait la trouille aussi, mais que tous les deux bras dessus on emprunte on aille sur un terrain qui n'était a priori pas le nôtre, ça me plaisait. Je me disais que mais il avait peur d'être ennuyeux.
Et
il l'est pas.
Il est loin de l'être, d'autant que le cadre est très important dans ce film. Ça casse l'ennui absolument parce que ce cinémascope pour filmer des intérieurs, c'est une idée voilà qu'on connaît bien dans le cinéma hollywoodien. On sait qu'il faut pas l'utiliser pour filmer forcément des grands espaces. Et vous jouez en permanence de ces petits mouvements de caméra presque imperceptibles qui viennent s'arrêter comme sur des visages, comme si le visage bloquait le mouvement de la caméra.
Mais c'est le visage qui bloque la caméra, si on, oui, sans doute, mais c'est surtout le regard. C'est-à-dire que là, il y a un effet vache qui rit, hein, si on veut. C'est-à-dire que le cadreur filme le personnage principal, donc regarde le personnage principal qui lui-même regarde la fille d'en face. Donc c'est la fonction même du métier de cinéaste. Moi j'aime bien qu'on dise regardeur. Moi je me sens très regardeur, je me sens pas du tout mateur ou épieur ou parce que c'est un peu crade, mais regardeur c'est simplement s'intéresser au monde qui nous entoure et aux gens qui nous entourent et à plus forte raison aux gens qu'on met en scène.
C'est sensuel comme musique, hein?
Vous dansez bien pour un misogyne.
Mais qui vous parle de misogynie, Madeleine? J'aime les femmes. Je ne veux pas vivre avec. Nuance.
Et pourquoi vous voulez pas?
Peut-être tout simplement parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Allez savoir.
Au fait, ta femme, comment tu veux la tuer? Eh oui, ta femme, comment tu veux la tuer?
Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Ça va être égal. Pas d'idée, moi.
Ah, mais le problème, c'est que moi non plus, j'ai pas d'idée. C'est toi le client, alors c'est à toi de choisir. Eh, qu'est-ce que tu préfères? Strangulation? Coup de couteau dans le ventre? Empoisonnement? Carbonisation? Oh! Alors? Décapitation? Tronçonneuse?
Mais tais-toi donc, tu me déprimes!
Vous écoutez France Culture Plan Large avec Patrice Lecomte, mais aussi Philippe Noiret, Judith Godrèche, Richard Bourringer et Thierry Lhermitte sur un air argentin, c'est Tango. En 1993, on l'entend, il est question de misogynie et du projet d'assassiner une épouse, un féminicide, comme on dit aujourd'hui. Et après une série de succès, c'est votre premier échec, Patrice Lecomte, critique comme public, c'est jamais agréable, un échec évidemment, d'autant que j'ai le sentiment que c'est sans doute un de vos films les plus personnels, non que vous soyez un misogyne assumé, mais parce que vous y avez laissé affleurer avec une vraie franchise les sentiments les plus inavouables qu'on puisse avoir à un moment ou à un autre de sa vie, Patrice Lecomte.
C'est pas faux, évidemment. Le film a été très mal pris parce qu'il affichait au 15e degré une misogynie galopante. Alors que mon projet, mon envie, ce que je voulais communiquer, c'était de me moquer des hommes, donc de moi-même, des hommes, de manière générale, dans leur comportement amoureux, souvent assez navrant. Et je sais de quoi je parle. Mais le film a été pris très au premier degré comme un film misogyne. Aujourd'hui, je crois que on me lapiderait. Et j'ai été non pas meurtri, mais je me suis dit je me suis gouré quelque part, forcément, si j'ai pas su annoncer la couleur. Mais c'est vrai que j'étais ça m'a perturbé d'être taxé de misogyne, quoi. Voilà, tout simplement. Et il y a quelque temps, 2 ans, je ne sais plus exactement, dans une ville dans le sud où ils organisent un festival en plein air, ils savaient que j'étais dans la région, ils voulaient montrer un de mes films, ils ont montré Tango, j'ai annoncé au public, le film ressemble à un film misogyne, mais c'est pas ça du tout, et donc j'ai annoncé la couleur oralement, et puis le film s'est déroulé, et la salle, c'était dehors, qui était pleine de gens, les gens sont gondolés du début à la fin, parce que le film, s'il est pris pour ce qu'il est vraiment, il est assez drôle, ouais.
Mais s'il y a eu ce malentendu, c'est peut-être à cause du rapport que vous avez avec vos personnages, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que même quand ce sont des personnages inquiétants comme Monsieur Hir, même cette bande de misogynes assez grotesques et fanfarons pour cacher, comme je le disais tout à l'heure, des failles et des fragilités, vous avez toujours une vraie tendresse pour eux, et le fait de pas les montrer comme des personnages qu'il faut détester parce que ce qu'ils font et ce qu'ils disent n'est pas bien, peut créer ce genre d'ambiguïté.
Oui, vous avez tout à fait raison, mais je suis incapable de d'écrire et encore moins de filmer des personnages que je n'aimerais pas. Alors même les plus gros salauds, même les gens les moins recommandables, ils sont forcément, si on cherche un peu, ils ont forcément un côté moins noir, moins sombre, moins dégueulasse, donc. Et je trouve que c'est la moindre des choses, mais j'allais dire vis-à-vis des personnages, mais vis-à-vis du public aussi, c'est la moindre des choses qu'un cinéaste aime les personnages qu'il met en scène, même si c'est des gens, même si c'est ce trio de faux misogynes.
Entebbe?
Moi, je trouve que vous avez... Alors, il y a un mot dans la phrase que vous avez posée comme question qui a résonné tout d'un coup. C'est, je me suis dit, on a beaucoup parlé à l'époque, je me rappelle, de Tandem comme une comédie, pas comme les autres. On y a fait référence au cinéma italien. Mais moi, la vraie comédie italienne de Patrice Lecomte, je trouve que c'est Tango. Noiret, c'est vrai, dans le cinéma français, avait une image assez bourgeoise installée, mais il avait aussi fait La Grande Bouffe. Et donc, il y a comme ça une filiation, vous avez dit, le fanfaron. Il fanfaronne. C'est Gassman, c'est ces personnages-là. Et puis, en face de ça, il y a Patrice Lecomte, qui est quand même, et on l'a assez peu dit, je me rappelle, enfin, à cette époque-là, dans Tango, il est du côté de tous les personnages féminins, qui sont tous irréprochables. Enfin, les exemplaires, je me souviens, j'avais parlé avec Sautet sur Vincent François Paul et les autres, il m'avait dit oui, mais c'est un film sur les compagnes et les femmes, parce que elles n'ont aucun des défauts des mecs.
C'est vrai, je trouve cette analyse pertinente, et merci.
Est-ce que vous avez fait ce film contre le précédent? Parce que je parlais de versatilité tout à l'heure, c'est vrai que vous êtes parfois un peu difficile à suivre, c'est ce qui est intéressant, précisément, après des films de studio, par exemple, comme Monsieur Hir, ou juste avant, il y avait eu Le Mari de la Coiffeuse, on sent que vous avez envie de retrouver du grand espace, de la route. Oui. C'est un road movie, d'ailleurs, comme Tandem, Tango.
Oui, c'est tout à fait juste, et c'est vrai que j'avais dit à mon assistant de l'époque, je voyais qu'il se morfondait un peu, parce que de tourner jour après jour dans un salon de coiffure, c'est pas très actif en termes de mise en scène, d'assistanat, d'infrastructure et tout ça. Et je lui avais dit, t'inquiète pas, le prochain, on sera sur les routes, il y aura des avions, il y aura des cascades, des camions, des trucs. Enfin bon, ça va pas terrader de partout. Mais Enfin, ce qui est vrai aussi, c'est que quand j'ai écrit Tango, j'ai eu envie d'écrire. Enfin, j'ai écrit, je m'en rends compte, j'assume, sous influence Bertrand Blier, parce que j'admirais, j'avais beaucoup d'envie, d'appétit pour sa liberté d'inspiration et d'écriture, parce qu'il se permet tout, même les trucs les plus choquants a priori, enfin peut-être choquants. Et quand j'ai écrit Tango, je pensais beaucoup. J'en ai jamais parlé avec Bertrand Blier, mais le film est très blieresque, enfin, dans son inspiration au départ. Et c'est peut-être aussi pour ça que, parce que lui, Blier, c'est un vrai misogyne, je plaisante. C'est aussi sans doute pour ça que le film a été pris pour un film misogyne, parce que sous influence Blier, parce qu'on dit des choses horribles sur les femmes. Mais je suis d'accord avec Bean, c'est les femmes les plus exemplaires dans le film.
Oui, parce qu'à l'époque, vous mettiez en scène Anouilh aussi, à la même époque.
Oui, j'avais fait à la théâtre, même époque ma première mise en scène de théâtre, ouais, oui, absolument, ouais, qui était Ornif ou Le courant d'air. Qui,
pour le coup, lui, est assez noir sur sa vision des femmes.
Oui, mais il y a certaines noirceurs qui sont pas mal non plus.
Vous dites que vous enviez la liberté de Bertrand Blier. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a toujours, mais ça doit être le cas chez tous les cinéastes, on en parlera tout à l'heure avec Thomas Vinterberg, qu'il y a toujours chez vous cette tension entre l'envie de tout contrôler, ça serait le studio par exemple, et l'envie de lâcher prise, de trouver des espaces de liberté.
On veut toujours ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire que si on est blond, on veut être brun. Si on est frisé, on veut avoir les cheveux raides, etc. Bon, la comparaison est un peu limitée, je suis d'accord. Mais quand vous disiez tout à l'heure, on fait volontiers, consciemment, inconsciemment, un nouveau film contre le précédent, ou du moins, c'est vrai que c'était le cas de Tango, quoi, qu'il fallait absolument que je m'aère, que je fasse des trucs, et puis ces films politiquement corrects que pouvait être confusément Monsieur Hir, par exemple, il fallait absolument que je fasse un film politiquement incorrect, et ça a été Tango. C'est-à-dire que j'ai pas le goût de la provocation, mais ça me plaît assez d'être là où je ne m'attends pas.
La Castafiore, c'est Suzanne Balguery qui chante cette air des bijoux du Faust de Gounod. Pourquoi est-ce qu'on écoute cet extrait qui ne sort pas d'un des films dont on a parlé? Eh bien, c'est parce que Patrice Lecomte, depuis une semaine, vous avez mis la tintinophilie en émoi en annonçant, vous disiez que vous n'êtes jamais là où on vous attend. Vous avez annoncé à Nice ce matin que vous aviez en projet une adaptation avec des acteurs en prise de vue réelle, donc des bijoux de la Castafiore. On peut en parler, Patrice Lecomte, ou c'est trop tôt?
Alors, pardon, c'est pas pour faire Monsieur le Mystérieux, mais c'est un peu trop tôt dans la mesure où c'est un projet qui est en ligne de mire, c'est pas pour tout de suite. La production se remue comme il faut, parce qu'il y a des non pas des problèmes, mais enfin il y a des droits à respecter, et donc ça prend du temps, donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est un projet qui m'excite beaucoup. Parce que je suis pas un spécialiste de Tintin, mais j'ai vécu quand même avec Tintin, enfant, puis adolescent, puis je les ai relus, et cette Castafiore, cette histoire-là me plaît beaucoup, parce que c'est C'est l'album de Tintin, c'est l'aventure de Tintin la moins aventureuse.
Oui, c'est une anti-aventure de Tintin.
C'est une anti-aventure, ça se passe dans un lieu unique, Moulinsart, avec toute une petite humanité de gens, de reporters, de photographes, d'émissions de télévision, de castafiores, de pianistes, de bohémiens qui habitent à côté. Et tout ça me plaît beaucoup. Il y a quelque chose de très formidable, je crois, à faire, j'en suis sûr même, et de très respectueux aussi. Il s'agit pas du tout de jeter l'album et de n'en faire qu'à ma tête, mais d'être très respectueux de l'œuvre d'Hergé.
En attendant de voir ça sur grand écran, sachez, Patrice Lecomte, mes chers auditeurs, que les bijoux de la Castafiore seront à entendre toute la semaine du 26 octobre dans le feuilleton de France Culture, dans une réalisation de Benjamin Habitant avec la Comédie Française tout entière et l'Orchestre National de France. Mais puisqu'on parle de bande dessinée, vous avez sorti, c'est tout neuf là, une bande dessinée 50 ans après vos débuts au journal Pilote, où vous étiez dessinateur, enfin auteur de bande dessinée à part entière, mais vous faisiez aussi vos propres scénarios. Là, c'est un scénario que vous avez écrit pour un vieux complice, là encore des années Pilote, Al Kutlis. On l'appelle Alexandre Kutlis, je vois maintenant, mais c'est bien le même Al Kutlis. C'est Deux passantes dans la nuit. C'est une sorte de traversée de Paris au féminin, puisque ce livre accompagne en une nuit l'errance de deux jeunes femmes dans le Paris de l'occupation, sa vie nocturne entre dancing clandestin, métro reconverti en abri anti-aérien et collaboration de la pègre avec l'occupant. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette envie de retourner à la bande dessinée, Patrice Lecomte ?
L'envie de la bande dessinée, elle n'est pas venue tout de suite, parce que quand on a commencé à rêvasser autour de cette histoire avec Jérôme Tonnerre, qui est un compagnon de travail formidable, on a écrit plusieurs films ensemble, et quand on a commencé à rêvasser autour de cette histoire, assez vite, au cours de la troisième, quatrième ou cinquième séance de travail, je ne sais plus, j'ai dit à Jérôme on n'y arrivera jamais, quoi, parce que compte tenu du contexte du cinéma actuel, les productions, les gens devenus, enfin, je suis pas pessimiste, hein, mais les gens, les producteurs, ces puissants qui nous gouvernent étant devenus de plus en plus frileux, un film qui se passe avec deux filles dans Paris occupées en une nuit, enfin, ça va être archi compliqué. Et donc, je dis à Jérôme Tonnerre, mais attends, il y a un truc, on va faire une bande dessinée. On va écrire la même histoire, parce que un scénario de film ou de bande dessinée, c'est toujours un scénario. Faut inventer des choses. Et quand on a eu cette idée, quand j'ai suggéré cette idée, ça nous a donné une vraie liberté d'inspiration, parce que au lieu de s'auto-censurer en disant mais non, ça va coûter trop cher, c'est pas facile, alors là on avait tous les droits, quoi, parce que la bande dessinée, on fait ce qu'on veut.
La bande dessinée, c'est la liberté, mais vous êtes aussi retourné au dessin. Je le disais tout à l'heure, il y a aussi un livre pour enfants, Faites la tête, avec Patrice Lecomte. Vous reprenez des dessins d'ailleurs qu'on avait déjà vu il y a 3 ans, il me semble, dans une planche d'épinal que vous aviez fabriquée à l'époque. Retourner au dessin et surtout les montrer, ça a été un plaisir ou...
Alors, retourner au dessin, ça n'a pas été une souffrance, ça a été une joie, mais enfin, ça a quand même été un peu laborieux, parce que ça faisait assez longtemps que je n'avais pas trempé ma plume dans l'encre de Chine. Mais au départ, c'était une proposition de Flammarion Jeunesse qui, connaissant les planches que j'avais pu dessiner pour l'imagerie d'Épinal, m'a dit, mais ce serait marrant d'imaginer, d'inventer la vie de ces gens-là, de savoir qui est... Pourquoi est-ce qu'on dit tête de linotte? Ben parce qu'il y a un Jean-François Linotte qui a existé et qui avait une mémoire d'huître, quoi, évidemment. Et j'ai pris du plaisir à écrire ces histoires pour des enfants qui auraient entre 8 ans et 15 ans. Et surtout en pensant aux parents qui allaient lire ces histoires-là. Et je voulais que les parents ne s'ennuient pas en lisant ça à leurs enfants. Parce que moi, je me souviens quand je lisais des histoires à nos filles, il m'arrivait de m'ennuyer. Donc j'ai écrit Faites la tête, qui sont 8 histoires avec tête de gland, tête de nœud, tête de linotte et quelques autres.
Tête de clou, tête de gondole, oui. Et tête de mule.
Tête de nœud, c'est pas grave-le, hein, du tout. C'est simplement l'histoire d'un type qui savait faire et défaire les nœuds mieux que personne. Et je me suis dit, essayons d'écrire des histoires comme j'aurais aimé qu'on m'en lise quand j'étais petit.
Quando la sera scivolò su di noi, all'uscita della scuola in città, ci prendemmo per mano e ti dissi, io ti amo. Quando un bambino ci tagliò poi la via, con un tamburo di latta e una scia, e poi quel suono rimbalzò su di noi, io ti amo. il mio rifugio, il mio rifugio. Poi ti stringesti forte insieme a me, quasi a proteggere l'eco dentro di te, delle prime parole d'amore, io ti amo. Quando la neve di silenzio imbiancò tutto quel chiasso al centro della città, e le nostre parole gelò, io ti amo.
Merci beaucoup, Patrice Lecomte, d'être venu faire un tour dans Plan Large. Tandem, Monsieur Hir et Tango sortiront en combo DVD Blu-ray ces mercredi prochain dans leur version restaurée chez Pathé, en version restaurée également, mais cette fois chez Studio Canal. Il y a aussi Viens chez moi, j'habite chez une copine. Et les spécialistes, vous écoutez France Culture et dans Plan Large, il est temps d'ouvrir le journal du cinéma.
Oh my God, you're not killing him, though. Вас на шлефом шишено, не? Подозреваемое лицо.
Документы деланы. Прокуратура откус. Она камера дага педофилды.
Сотка жит к сбисне.
Понял, понял. Не доедет.
Видите? Свет.
Employer des filles maintenant?
Ouais, et celle-ci est très efficace. Aussi efficace que mal élevée.
On m'appelle Calamity. Calamity Jane.
Je le sais.
Il est tout à fait inutile qu'on aille plus loin, vous et moi. Nous n'avons rien à nous dire. Nous sommes les mêmes.
Je crois ce que vous venez de dire.
Les histoires d'amour, vous les vivez avec d'autres.
Papa ti fa una promessa. La mamma non se n'è andata via per sempre. Te la riporto.
Tu sei un to.
Ti fa sempre male quando non ci sono io. You all right?
It was until I saw that.
Martin's dead. Bob is dead. Jesus is dead. They tried it peacefully. We gonna try something else.
Rebels without a job.
They're a threat to national security.
This revolution, we may have to hurt somebody's feelings.
Get on the street! Get on the street!
When you came to Chicago, were you hoping to draw the police into a confrontation?
I'm concerned you have to think about it.
Give me a moment, would you, friend? I've never been on trial for my thoughts before.
Sur vos écrans cette semaine, un flic sombre, vraiment très sombre, flanqué d'une journaliste en trench coat dans la campagne austère d'un pays corrompu jusqu'à l'os, c'est A Dark, Dark Man du très prolifique Kazakh Adilkhan Yerzhanov, l'auteur de La tendre indifférence du monde. Une jeune fille qui décide de se couper les cheveux et de mettre un pantalon dans l'environnement patriarcal très corseté d'une caravane de pionniers, c'est Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, le nouveau et magnifique dessin animé de Rémi Chaillet. qui, au blanc glacé de tout en haut du monde, fait se succéder les couleurs fauves du Grand Ouest américain avec les grands aplats qui sont sa signature. Un film d'initiation dans une ambiance à la Mark Twain et superbement animé. On vous le recommande chaudement. Les amours contrariés d'une femme d'ambassadeur et d'un vice-consul à Calcutta avec les superbes voix de Delphine Seyrig et de Michael Lonsdale, c'est bien sûr India Song de Marguerite Duras qui ressort à la fois en salle et en combo Blu-ray et DVD chez Tamasa, et je peux vous garantir que l'effet sur le spectateur est toujours aussi saisissant. Vous avez encore un père et son fils pris dans l'esclavage moderne des travailleurs immigrés dans une exploitation agricole des Pouilles dans le sud de l'Italie. C'est Una Promessa des frères Gianluca et Massimiliano De Serio, un étrange alliage très original de naturalisme social, de moments quasi sadiens et d'exutoire gore. Et enfin, à voir sur Netflix, parce qu'il y a aussi parfois vraiment du cinéma sur les plateformes numériques, Les 7 de Chicago, deuxième long métrage d'Aaron Sorkin, le créateur de la série À la Maison Blanche, qui met en scène le procès inique, parce qu'évidemment tout à fait politique, il était voulu par Richard Nixon, des activistes gauchistes qui avaient perturbé la convention démocrate de Chicago en 1968, un film qui est très classique dans sa réalisation, mais servi par les formidables dialogues de Sorkin et d'excellents acteurs, et qui évidemment tombe à pic dans l'Amérique d'aujourd'hui, et pas seulement en Amérique. Et puis enfin, dans cette riche semaine, il y a Drunk, le nouveau film de Thomas Vinterberg, le réalisateur de Festen, qui est d'ailleurs également ressorti en salle mercredi. C'est un film qui réunit des acteurs fidèles du cinéaste danois, en premier lieu Mads Mikkelsen, dont il est le seul sans doute à savoir saisir à ce point la fragilité et la grâce, à rebours de son image de dur à cuire, avec cette histoire de quatre amis quinquagénaires qui vont chercher dans l'alcool un exutoire à la morne grisaille qui est devenue leur vie. Un film à la fois triste et joyeux, placé sous les doubles auspices de Søren Kierkegaard et d'un certain John Cassavetes, celui de Husbands, Thomas Vinterberg.
Husbands by Cassavetes was one of our main inspirations. I consider him a master, but it was very interesting to see.
Husbands, le film de Cassavetes, a été une de nos principales inspirations. Je le considère comme un maître. C'était très intéressant de le revoir. Dans le contexte actuel, c'est presque choquant. Il y a tellement d'abus sur des êtres humains, tellement de gens qui se font humilier, et particulièrement des femmes, dans ce film. On ne pourrait jamais le faire aujourd'hui. Et puis, il y a ce parfum de mélancolie qui ne disparaît jamais. C'est une situation qui ne change pas, ce qui en fait un film dont on ne sort jamais vraiment. C'est un chef-d'œuvre, en un sens, mais d'un genre très déplaisant.
Votre film est moins sur l'ivresse que sur la nécessité de lâcher prise et d'accepter d'être faillible. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous inspire dans votre manière de faire des films?
Definitely. My film is not only about drinking, it's about living, I guess. And speaking of Kierkegaard.
Absolument. Mon film n'est pas seulement sur la boisson, c'est sur la vie. Et à propos de Kierkegaard, c'est sur la perte de contrôle. Ce qui est incontrôlable, par exemple, c'est de tomber amoureux. C'est une perte de contrôle physique que décrit la phrase citée dans le film. Avoir une idée, c'est quelque chose qu'on a, c'est au-delà de ce que vous pouvez contrôler. Or, notre vie est devenue très contrôlée. Vos collègues journalistes ont des clics sur leur écran chaque fois que quelqu'un lit ce qu'ils écrivent. Nos téléphones mesurent combien on fait de pas. Les jeunes doivent concevoir des plans pour leur éducation et doivent apparaître sur les réseaux sociaux en permanence. C'est le résultat d'une stratégie du contrôle et de la mesure permanente, et ce film se rebelle contre ça. C'est un combat pour l'incontrôlable. L'incontrôlable, c'est aussi vos propres erreurs, vos failles. Il s'agit d'accepter ce que vous avez mal fait, ce en quoi vous n'êtes pas bon. Alors oui, le film est vraiment sur nos failles et sur la vie qu'on ne peut pas saisir ou prévoir.
Mais comment est-ce qu'on fait comme réalisateur quand on doit organiser un tournage, écrire un scénario, avoir un minimum de contrôle pour obtenir cette capacité justement à perdre contrôle?
Faire un film, c'est une étrange combinaison de dur travail, de stratégie, puis de perte de contrôle. C'est dans cet ordre dans ma tête. Je prépare un programme. Par exemple, le travail avec les acteurs. Je prépare avec eux. Nous répétons, nous discutons, je réécris, nous discutons à nouveau. Dans ce film, nous avons répété comment être ivre. Pendant une semaine, je les ai fait boire, je les ai filmés, on a regardé le résultat, des choses comme ça. On a regardé beaucoup de vidéos, en particulier russes, de gens ivres. C'est du travail. Et après, quand on commence à tourner, qu'on déclenche la caméra, on espère que les fondations sur lesquelles ils se tiennent sont tellement solides qu'ils peuvent lâcher prise. À ce moment-là, ils lâchent prise. Ils s'autorisent à perdre le contrôle.
Drunk de Thomas Vinterberg est en salle depuis mercredi. Et merci à Boris Pinault pour avoir interprété ses propos. Je signale encore un livre qui vous intéressera sans doute, Patrice Lecomte, vous qui préparez un Maigret avec Gérard Depardieu. Vous le savez, en fait, cette année, le centenaire de Michel Audiard, scénariste star du cinéma français des années 60. Mais avant cela, on le sait moins, Audiard a été l'auteur qui a le plus adapté Georges Simenon au cinéma. Il a adapté 6 de ses livres entre 1956 et 1962. 3 de ses scénarios sont publiés par Actes Sud et l'Institut Lumière qui vient de célébrer le scénariste dans le Festival Lumière à Lyon. Il s'agit du Sang à la tête, Maigret tend un piège et Le Président, réalisés respectivement en 1956 par Gilles Grangier et en 1961 par Jean Delannoy et Henri Verneuil, avec à chaque fois Jean Gabin en vedette, interprète simenonien par excellence dans ces années-là. Polar toujours, mais dans un tout autre genre, on retourne dans la cellule d'un criminel célèbre.
That's the same atrocious aftershave you wore in court 3 years ago.
Yeah, I keep getting it for Christmas.
Did you get my card?
I got it, thank you.
And how is Officer Stewart? The one I was first to see my basement.
Stewart's fine.
Emotional problems, I hear. Do you have any problems, Will?
No.
No, of course you don't. I'm glad you came. My callers are mostly clinical psychologists from Cornfield University somewhere. Second raters, the lot.
Dr. Bloom showed me your article on surgical addiction in the Journal of Clinical Psychiatry.
And?
Very interesting. Even to a layman. I want you to help me, Dr. Lecter.
Yes. I thought so.
It's about Atlanta and Birmingham.
Yes?
You read about it?
In the papers. I don't tear out the articles. I wouldn't want them to think I was dwelling on anything morbid. You want to know how he's choosing them, don't you?
I thought you might have some ideas.
Why should I tell you?
You get to see the file in this case. And there's another reason.
Pray tell.
I thought you might be curious to see if you're smarter than the person I'm looking for.
Then by implication, you think you're smarter than me since you caught me.
No. I know that I'm not smarter than you.
Then how did you catch me, Will?
You had disadvantages.
What disadvantages?
You're insane.
Il y a une semaine, nous avions déjà rencontré le terrifiant docteur Hannibal Lecter. C'était Jodie Foster qui était face à Anthony Hopkins dans les geôles obscures, très obscures du Silence des agneaux de Jonathan Demme. Mais c'est 5 ans avant, en 1986, dans ce qu'on appelait alors le sixième sens, et qui ressort mercredi prochain sous son titre original de Manhunter, que le psychiatre cannibale avait fait sa toute première apparition. Il s'appelait alors Hannibal Lecter. Il était joué par Brian Cox, devenu ultra célèbre ces derniers temps en interprétant le patriarche de la série Succession. Et face à lui, c'était William Peterson, acteur fétiche de Michael Mann, qui signait là son troisième long métrage après Le Solitaire et La Forteresse Noire, Manhunter. Donc, un film qui rassemble, il me semble déjà, nombre des thématiques du très formaliste futur auteur de Heat et de Collateral, Alan Tebbin.
Oui, alors, mais ce qui est intéressant aussi avec Michael Mann, c'est qu'il est, il est formaliste, mais ça ne se voit jamais, en fait. Parce que c'est tellement toujours au service des, de l'histoire et des personnages et de l'implication du spectateur dans le mental des personnages qu'on ne se rend pas compte de à quel point la mise en scène est virtuose. Et c'est vrai que si on compare cette scène dont on vient d'entendre un extrait avec son équivalent dans le fameux Silence des agneaux, on s'aperçoit que... Alors, c'est là que, justement, on peut comparer les mises en scène. D'abord, Michael Mann, ce qui l'intéresse, c'est la dualité, c'est ces deux personnages antagonistes qui, finalement, sont le double l'un de l'autre. Et dans ce décor tout blanc de la prison où le flic va rencontrer Hannibal Lecter, par opposition au décor tout noir et sombre du Silence des agneaux, eh bien ici, vous avez le champ et le contre-champ. C'est-à-dire que le flic aussi est dans une prison quand on est du point de vue de Lecter. Et alors, cette question du point de vue qu'on a déjà évoqué avec Patrice Lecomte tout à l'heure, là, elle est essentielle. Et c'est même un des moteurs du thriller, puisque, c'est d'ailleurs le moteur de toute la série de Thomas Harris. C'est que pour que le profiler, le flic, arrive à mener à bien son enquête, il faut qu'il se mette à la place de la personne qu'il recherche ou qu'il poursuit. Donc ici, William Peterson, qui est absolument prodigieux, enfin c'est un jeune acteur à l'époque, mais qu'ensuite on a quasiment perdu de vue, il est toujours à la lisière. On sent que, et ce qui est bien, c'est qu'il y a une backstory qu'on va apprendre petit à petit, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant le tournage. C'est que il tutoie les tueurs ou les suspects ou les assassins pour mieux se les approprier et pour mieux avoir leur regard. Et on va être dans la subjectivité, non seulement du flic qui enquête, mais du flic se mettant dans la peau du tueur, donc voyant des choses horribles. Et c'est ce qui rend le film une sorte de film lisière entre la santé mentale et la folie. Et c'est ce qui en fait un thriller absolument palpitant aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous avez dit, étonnamment, que c'était juste 5 ans avant Le silence des agneaux, on a l'impression, quand on voit le film, que c'est une toute autre époque. C'est-à-dire que c'est on envoie des fax, on regarde des films en VHS, etc. Et il y a une musique très rock 80s. Mais bien que le film soit daté par ça, son efficacité, alors là, elle est incroyable. Elle est comme à l'origine.
On regarde des films en VHS et en Super 8 aussi, parce que c'est un film très théorique sur le cinéma également. C'est un peu comme Monsieur Hir dont on parlait tout à l'heure. On va passer son temps à regarder des images de films de famille. Il va y avoir des reflets, des vitres qui sont autant d'images de cinéma. On va même franchir la vitre pour passer quasiment de l'autre côté de l'écran, Ntemine.
Oui, et du coup, c'est intéressant parce que de revoir coup sur coup Monsieur Hir et Manhunter, on s'est pensé que le personnage du tueur qu'on voit très très en amont de la résolution de l'énigme dans Manhunter, il ressemble beaucoup à Monsieur Hir. Il a le même crâne rasé, le même visage complètement impassible, et ses rapports avec la jeune employée aveugle qu'il va inviter chez lui, etc., ressemblent un petit peu à ce désir bloqué du voyeur de Monsieur Hir.
Et on sera toujours dans la grande thématique de cette émission aujourd'hui, qui est la perte de contrôle, la perte de repère, mais la perte de contrôle.
Absolument. Et qui est en fait à l'inverse de ce que fait Michael Mann avec sa mise en scène. C'est-à-dire que lui, on a l'impression qu'il nous guide, mais avec un sens de la direction de spectateur absolument prodigieux, et évidemment aussi de la direction d'acteur, parce que tous les acteurs, même jusqu'au plus petit rôle, sont extraordinaires dans Manhunter. Donc vraiment, c'est à découvrir ou à redécouvrir d'urgence, surtout si on est fan du Silence des agneaux et de tous ces sequels plus ou moins bons, d'ailleurs dont un remake par Brett Ratner de ce film-là, sous le titre de Red Dragon.
Dragon rouge qu'on préférera oublier.
Don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And I'll take my hand. Oh, won't you come? Please take my hand.
Merci Anne Tebbin. Manhunter de Michael Mann ressortira en salle en version restaurée mercredi prochain pour la première fois depuis 1986. Un plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Valérie Lavalard. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Laurent Polleret. La semaine prochaine, nous serons en compagnie d'Andrei Konchalovsky pour son magnifique nouveau film Michel-Ange. Albert Dupontel nous dira quelques mots d'adieu les cons et Charlotte Garçon nous parlera, elle, du nouveau chef-d'œuvre très politique de Frédéric Wiseman, City Hall. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Toute une vie, présenté par Christine Bernard.